Le jardin de la culture.
Chut. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Jardin de la Culture. Aujourd'hui, je vais vous parler des vraies histoires qui se cachent derrière les contes de fées. Peu de personnes le savent, mais les contes de fées pour enfants ont à l'origine été créés pour les prévenir de la cruauté du monde. Les fins heureuses n'existaient pas. Alors, pour éviter que les enfants ne soient traumatisés à jamais, Walt Disney les a réadaptés pour en faire des divertissements qui les fassent rêver. En réalité, ce n'est ni Charles Perrault, ni même les frères Grimm qui sont à l'origine de ces contes de fées. Pour exemple, la toute première version de Cendrillon remonte en effet au 9e siècle avant Jésus-Christ en Chine. C'est en 1634 qu'elle arrive en Europe, traduite par l'auteur italien Giambattista Basile. Du temps de Perrault, les contes de fées populaires trouvent leurs origines dans la transmission orale. Basile est alors considéré comme le premier à les avoir mis par écrit en les assemblant dans un recueil, le Pentaménor, où se trouvent les premières versions de La Belle au bois dormant, du Petit Chaperon rouge et du Chat botté. C'est cet ouvrage qui m'a inspiré pour ce sujet. Charles Perrault, Hans Christian Andersen et les frères Grimm sont considérés comme étant les auteurs de ces contes, mais en réalité, ils les ont revisités pour les adapter au jeune public. Les contes de fées participent alors à l'éducation des enfants, en leur inculquant des valeurs, en leur apprenant à distinguer le bien du mal à travers les gentils et les méchants. Pour autant, derrière les histoires de belles princesses et de beaux princes que nous connaissons aujourd'hui, les versions les plus anciennes sont sordides, voire carrément gore. Alors, je vous invite à découvrir ce qui se cache derrière ces histoires remplies de bons sentiments et de guimauve. On commence par Ansel et Gretel. Sans doute celle qui restera la plus fidèle, car elle raconte la grande famine de 1315-1317 qui sert de toile de fond à l'histoire et qui entraînera le crime, la mort en nombre et le cannibalisme. De nombreux parents, affamés, ont été contraints d'abandonner leurs enfants, et c'est sans compter ceux qui préféraient en faire un bon pain de viande. Passons au Petit Chaperon rouge. Les frères Grimm ont édulcoré cette histoire au XIXe siècle. Dans les versions antérieures et dans l'édition de Charles Perrault de 1697, le petit chaperon rouge mange sa propre grand-mère sans le savoir après que le loup, déguisé, lui ait donné les tripes de la vieille à manger. Dans une autre interprétation, le loup exige que le petit chaperon rouge se déshabille. La fillette lui obéit et le rejoint au lit après avoir jeté ses habits aux flammes. Elle finira dévorée vivante. La petite sirène maintenant.
Sous l'océan, tout, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.
Dans la version de Disney, Ariel échange sa douce voix contre une paire de jambes. Dans l'histoire originelle d'Andersen, c'est sa langue qu'elle sacrifie, coupée au ciseau. Pire, chaque pas que fait la petite sirène lui provoque une douleur insoutenable dans les cuisses et les mollets, tels que des coups de couteau. Elle dispose alors d'une journée pour convaincre le prince de l'épouser, sinon elle finira changée en écume de mer. Intéressons-nous à Peter Pan.
En avant les amis, nous partons. Imaginaire.
est à l'origine un personnage du roman pour adultes Le Petit Oiseau Blanc de James Matthew Parry, publié en 1902. En raison du succès de ce personnage qui n'apparaissait que dans quelques chapitres seulement, Barry en fit le héros d'une pièce qu'il écrivit en 1904, Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir. Dans la version de Disney, Peter Pan aime jouer avec les enfants. Mais dans la version originale, il tue les enfants avant qu'ils ne grandissent. Wendy frôle la mort, Peter Pan se noie et le capitaine Crochet est dévoré par un crocodile. Et chez Pinocchio ?
Dans un cahier, je me tiens bien, je ne titube ni ne chancelle. Je n'ai besoin d'aucune main qui tire des ficelles. Hi-ho, depuis toujours, j'ai envie de faire la fête.
La version originale, créée en 1881 par Carlo Collodi, journaliste en fin de carrière aigri et solitaire, est loin d'être celle que nous connaissons. En effet, Geppetto est réputé pour détester les enfants et maltraiter Pinocchio qu'il n'a pas créé par amour ni pour avoir un fils, mais pour se faire de l'argent dans les foires. Geppetto finit emprisonné et Pinocchio est alors contraint de faire la manche pour manger. Devenu un souffre-douleur dans la rue, il est alors jeté dans les eaux glacées du fleuve et une fois ressorti de l'eau, pour se réchauffer, il se met près d'une cheminée. C'est alors que ses pieds prennent feu. Geppetto est relâché et retrouve Pinocchio. Ils deviennent très pauvres et Geppetto est contraint de vendre son marteau. Pinocchio lui finira pendu par les bandits. Savez-vous d'ailleurs que le fidèle allié de Pinocchio chez Disney, Jiminy Cricket, est tué dès les premiers chapitres par Pinocchio lui-même qui lui lance un marteau ? Penchons-nous maintenant sur Blanche-Neige et les Sept Nains. L'histoire d'origine a été écrite par Giambattista Basile et s'appelait La Jeune Esclave. Chez les frères Grimm, elle s'appelait La Petite Blanche-Neige, publiée en 1812. La reine diabolique serait en fait sa mère, mais qui deviendra la belle-mère au fur et à mesure des adaptations afin d'atténuer la cruauté maternelle. Dans le conte de Grimm, la méchante reine est plus cruelle que dans la version de Disney. Dans la version originale, elle est cannibale et demande aux chasseurs de ramener les poumons et le foie de Blanche-Neige pour les manger. Elle ne réussit pas son terrible plan et en guise de vengeance, Blanche-Neige, à l'occasion de son mariage avec le prince, fit porter à la marade des chaussures de fer brûlants aux pieds et l'obligea à danser jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Pour ce qui est de Pocahontas,
entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs du chat sauvage au petit jour, entends-tu chanter les esprits de la montagne, peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent, peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent.
Elle a bel et bien existé et est née en 1595. Elle est surnommée Pocahontas, petite impudique, à cause de son caractère expiègle. Le film de Disney est inspiré d'une femme ayant vécu au XVIIe siècle près d'une colonie anglaise de Virginie. La tribu de Pocahontas vit tout près du village des colons anglais. Elle est un jour capturée et faite prisonnière par les Anglais en 1613 pour faire pression sur les Indiens. Habillée comme une Européenne et rebaptisée Rebecca, elle est ensuite convertie au christianisme. Un Anglais finit par la demander en mariage, mariage qui servira tant les intérêts des colons que sa tribu pour apaiser les tensions. Elle partira vivre à Londres avec son époux, sera traitée comme une princesse du Nouveau Monde et sera exhibée comme le triomphe de la civilisation chez les autochtones. Pocahontas, loin de ses racines, tombe malade et meurt en 1617 sur un bateau qui l'a ramenée vers la Virginie. Elle fut enterrée sur les bords de la Tamise. Et Cendrillon, me direz-vous ?
Le rêve de ma vie, c'est là.
La, 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 la.
Dans la version des frères Basile de 1634, Cendrillon s'appelle Zézola. Elle voulait que son père se marie avec sa gouvernante adorée. Malheureusement, il en choisit une autre qui était une horrible femme. La gouvernante revancharde élabore un plan avec Zézola et elles décident toutes les deux d'assassiner sa belle-mère en lui brisant la nuque alors que cette dernière s'était penchée dans une malle. Manque de chance, la gouvernante et ses six filles sont encore plus tyranniques que la belle-mère et Zézola devient la servante de la maison et sera surnommée Cat Cendrillon, celle qui dort dans les cendres. Dans la version de Perrault, elle pardonne à ses sœurs. Mais dans la version de Grimm, les sœurs veulent tellement porter les pantoufles de verre pour épouser le prince qu'elles en viennent à se mutiler. L'une se coupe le gros orteil et l'autre se scie le talon. Mais dommage pour elles, le prince remarque que les chaussures sont ensanglantées et elles sont alors condamnées à se faire manger les yeux par des oiseaux et à mendier pour le reste de leur vie. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Notre belle au bois dormant.
Mon amour, je t'ai vu au milieu d'un rêve. Mon amour, un aussi doux rêve est un présage d'amour. Refusons tous deux que nos lendemains soient morts.
Eh bien, la version originale est de loin la plus atroce et elle est digne d'un film d'horreur. L'histoire est présente dans le Pentaménor, sous le nom Soleil, Lune et Thalia. Dans le conte de Basile, ce n'est pas un prince, mais un roi qui fait la découverte du corps endormi de Thalia alors qu'il était à la recherche de son faucon disparu. Ce roi est déjà marié, mais la belle étant tellement irrésistible, il la viole dans son sommeil et repart sur son cheval. L'acte du roi ne fut pas sans conséquence puisque Thalia donna naissance à des jumeaux, nommés Soleil et Lune, qui, en cherchant le lait maternel, retirèrent l'écharpe qui avait plongé la belle dans un sommeil profond. Le roi, un peu plus tard, voulut repartir à la recherche de Thalia et la retrouva dans le château, mais éveillée ce coup-ci avec ses deux bébés. La femme du roi, apprenant les infidélités de son mari, ordonne que les jumeaux soient tués et cuisinés puis servis comme dîner au roi. Heureusement pour eux, le cuisinier, seul saint d'esprit, décide de sauver les enfants et de préparer une chèvre à la place. Quant au sort de Thalia, elle devait être jetée dans les flammes, mais pour le roi, cela fut trop et il y jeta sa femme à la place. Donc pour résumer, nous avons dans ce conte un viol, des infidélités, des enfants hors mariage, du cannibalisme et des meurtres. Que de bons ingrédients! Et pour finir, notre bon chat beauté.
Si c'est une battle de danse que tu veux, je vais te battle danser le mardi soir jusqu'à ce que tu rendes l'âme.
Le conte publié dans le recueil Pentaménor raconte toujours l'accession à la richesse, mais les traits des personnages changent. L'histoire est plus sombre, les gens plus grossiers et violents, la société plus amère. Constantin est renommé Caglusio. Ce qui change, c'est la fin. Caglusio n'est plus le bon jeune homme reconnaissant de la version de Straparola. Il jure que lorsque le chat sera décédé, il lui prouvera sa reconnaissance en l'empaillant et en le mettant dans une cage dorée. Ce dernier teste le jeune seigneur 3 jours après, mais, feignant d'être mort, découvre horrifié que celui-ci demande de le pendre par les pattes et de le jeter par la fenêtre. Furieux, le chat se lève, se fâche contre le mendiant qui l'a transformé en riche et s'enfuit, laissant Caglusio se débrouiller désormais tout seul.
Ah, oh, comment oses-tu me faire le pas de la litière ?
Libre à vous maintenant de choisir la version que vous préférez pour endormir vos enfants le soir. Je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce nouveau jardin de la culture. Je vous dis à très bientôt. Bisous les ornithos !